de la paix. Amen. Il met la paix, il veut mettre l'ordre, il veut faire place à son esprit ce matin. Il siège au milieu de nous. Est-ce que vous en avez conscience? Amen. Dieu veut demeurer. Dieu veut prendre sa place. Je ne sais pas quelle tourmente anime, quelle serait cette oppression, ce lien, mais Jésus donne la liberté ce matin. Amen. Amen. Ce qui est sûr, c'est que tout esprit mauvais n'a pas sa place en ce lieu. Là où règne le Saint-Esprit, les démons sont soumis. Amen. Alléluia. Jésus. J'aimerais lire et refaire cette introduction de dimanche dernier, relire ce florilège de textes parlant de cet arbre qui porte du fruit. On s'est posé cette question, on a été dans cette affirmation-là la semaine dernière. Tu dois porter du fruit. Et il est dit des enfants de Dieu qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu. Dans Jérémie 17, « Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. » Amen. Le psalmiste parle du chrétien qui a un rapport à la parole de Dieu avec comme une nourriture. Celui qui trouve son plaisir dans la parole nous dit que « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Qui est-il ? Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. Ézéchiel va encore plus loin et va faire l'analogie de celui qui est dans la présence de Dieu et comme nous le sommes ce matin. Près du torrent, sur ses rives, de chaque côté pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Chrétien, tu es comme un arbre. Et là, la question, ce n'est pas est-ce que tu portes du fruit, c'est quel fruit portes-tu? Ah, il nous fait des nœuds au cerveau, celui-là. Quel fruit portes-tu? On va rentrer dans le sujet et on va voir qu'il y a plein de fruits dans la Bible qui sont relatés. Par exemple, le fruit des entrailles, nos enfants. Alléluia, ils sont beaux. Un héritage, nous dit le psaume 127. Il y a le fruit de notre travail, le salaire. Hein, tout travail mérite salaire, on est d'accord? Vous ne vous levez pas le matin pour aller au travail en disant « j'espère que je ne vais pas être payé ». Non? Ok. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Et la Bible parle, et par cette analogie-là du fruit du travail, nous invite à ne pas rester oisif. Il existe le fruit de la justice. Quand on voit justice dans la Bible, on peut faire ce parallèle avec tout ce qui plaît à Dieu. Il y a le fruit de la sagesse, de ceux qui se laissent conseiller par Dieu et qui ont une intelligence régénérée, une intelligence divine. Il y a le fruit des lèvres qui confessent son nom, une louange agréable. Et je crois que ce matin, dès le premier chant, vous avez réjoui le cœur de Dieu. Amen. Il existe le fruit de l'esprit, et ce n'est pas le sujet ce matin. Il existe le fruit des âmes, de toutes ces personnes qui, par notre témoignage, vont venir à Jésus-Christ. Ce n'est toujours pas le sujet ce matin. Le fruit que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de la repentance. Il y en a déjà qui disent « Amen » sans connaître le contenu de la prédication. Vous dites au moins « Amen » à la parole de Dieu, je l'espère. Jean-Baptiste, lorsqu'il prêche, son premier message parle de repentance. Il ne prêche que la repentance. Il dira dans Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. » Jésus va dire cela. Jésus va dire cela d'une autre manière dans Matthieu 3,10. J'ai inversé les diapos, excuse-moi Chantal. Déjà la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Après avoir vécu un temps où le Seigneur va bêcher la surface de la terre, pendant 3 ans on n'a donné aucun fruit, il va fertiliser avec du fumier, vous vous rappelez cette image de la semaine dernière. À un moment, il est dit que l'arbre qui ne produit pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Matthieu 3,10, c'était celle d'avant normalement, ou encore avant. Mais ce matin, je parle du fruit de la repentance. Pourquoi ? Parce que c'est le premier fruit qu'on devrait tous porter. Le fruit d'une intelligence renouvelée, de ceux qui savent demander pardon, de ceux qui savent s'humilier devant Dieu, de ceux qui ont appris avec les quelques mois de conversion, ont appris à dépendre de Dieu et à corriger leur trajectoire si nécessaire. Parce que si la repentance touche au salut, nous l'avons enfermé juste dans cela. Et ce qui est dommage, parce que la plupart des messages qui vont évoquer la repentance, et je ne vais pas tous les énumérer ce matin, s'adressent aux chrétiens. C'est paradoxal, non ? Sachant que le message de Jésus, de Jean, de Pierre, de Paul, pour amener les âmes au salut, vont parler de repentance. Mais toutes les lettres de Paul, de Pierre, appellent à la repentance qui ? Les chrétiens, ces lettres sont adressées aux églises. Wow, Seigneur, j'ai pas tout compris. Je croyais que la repentance était une fois pour toutes, et tout à l'heure, en introduction, Chloé nous lisait ce message où une fois que nos péchés sont effacés, c'est une fois pour toutes. Gloire à Dieu ! Amen ! Quelle suffisance parfois. Nous jouons avec la grâce en disant, mais de toute façon, j'ai été pardonné une fois pour toutes. Certains vont même jusqu'à dire, sauver une fois pour toutes, sauver tout le temps. Qu'importe ce que je vais faire. Excusez-moi, hein, mais en préparant ce message, je vois bien que le salut éternel n'existe pas. En tout cas pour celui qui est pécheur endurci. Le salut éternel est offert à celui qui a un cœur repentant, qui sait qu'il a besoin de son Jésus et de sa grâce. De celui qui a été régénéré dans ses pensées, dans ses actes, dans ses choix. La repentance, c'est la clé qui va ouvrir la porte du salut. Et si Jésus est la porte, la repentance en est la clé. On est d'accord avec cela ? La repentance, c'est un thème central dans la prédication de Jésus. Première prédication, Marc 1, verset 15. « Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. » Et en parlant du royaume de Dieu, il parle de lui-même. Jésus s'est approché de nous. Il est venu nous offrir la grâce. Il est venu jusqu'à nous. Alléluia, il s'est approché de nous, un temps de grâce est venu. Et là on se dit, ah Seigneur, les malades vont être guéris, les démons vont être chassés, alléluia, les perdus vont être retrouvés. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la première chose que dit Jésus. Repentez-vous. Cette version nous dit, changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle. Repentance et conversion sont indissociables. Mon ami, si tu adhères à la culture chrétienne, à la mouvance évangélique, si tu es fils de chrétien depuis ta naissance, tu n'es pas sauvé. Venir à l'église n'a jamais sauvé personne. Entendre des milliers de sermons sur YouTube ne sauve personne. Écouter des louanges toute la journée ne sauve personne. La repentance qui précède la conversion sauve tout le monde. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un temps de rafraîchissement et de grâce. Vous allez me dire, il ose dire ça. Oui, oui, je vais parler toute la matinée de la repentance, mais il y a des choses associées à la repentance qui nous amènent dans des temps de rafraîchissement, des temps de repos, des temps de joie. Vous savez que la repentance, c'est un temps de joie. Peut-être pas l'espace d'un instant quand on demande pardon, c'est vrai. Et la Bible est très claire là-dessus. Mais c'est ce que dit notre Seigneur. Et il le dit, la foi, et c'est ce que dit Jésus, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est croire que Jésus est venu pour ôter les péchés du monde et les miens, personnellement. Amen. Mais quand si je dis que la repentance, elle est avant la conversion, et il n'y a pas de conversion sans repentance, je dis aussi que la repentance précède la foi. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il y a foi et foi, excusez-moi de le dire. Hein. Qui croit que Dieu existe ? Ouais. Qui croit que Jésus est le Sauveur ? Amen. Normalement, il y en a qui n'osent pas, mais je sais que vous confessez dans vos cœurs. Ok. Vous savez que cette définition-là de la foi, les démons l'ont exactement la même. Les démons, face à Jésus, disaient « Tu es le Fils de Dieu ». Waouh, mais attends, je croyais qu'il fallait confesser de ma bouche que Jésus est le Fils de Dieu et je serais sauvé. Si c'était juste prononcer des mots, les démons auraient accès au salut. C'est quoi cette hérésie ? Non. Ce n'est pas le fait que je vais prononcer des paroles magiques le jour de ma conversion, comme une seule phrase m'amènerait à me changer. Non, il est question de repentance. Ça, c'est opposé, ce n'est pas possible pour les démons, pour les religieux, il n'y a point de repentance. Le fruit que tu dois porter premièrement dans ta vie, au-delà de dire « Jésus, tu es le Fils de Dieu ». Ah, c'est beau de dire ça. C'est une vie qui reflète ce que tu as confessé. Une vie qui amène à un changement de mentalité, à un changement de réaction et à un changement de décision. Ça, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas pénitence. La repentance, ce n'est pas des remords. La repentance, ce n'est pas un sentiment. La repentance, selon 2 Corinthiens, verset 7, et voici ce qui est dit, qui va venir apporter des éléments, et je vais amener plein d'éléments qui vont définir la repentance. Puis après, on lira une vraie définition de la repentance. Paul dira ceci, « Si mon autre lettre, » on est dans 2 Corinthiens, donc il parle de la première épître aux Corinthiens, « Si mon autre lettre vous a rendu triste, je ne le regrette pas. » Donc si le message de la semaine dernière vous a attristé, et si tout ce que je dis ce matin vous attriste, je ne le regrette pas. Pourquoi ? Je vais m'associer aux paroles de Paul. « Oui, je le sais bien, cette lettre vous a rendu triste pendant un certain temps. Je l'ai peut-être regretté, mais maintenant, je suis dans la joie. » Donc Paul est content d'attrister les chrétiens. « Votre pasteur est heureux de vous attrister. » Non, quand même pas. « Mais parce que cette tristesse... je suis dans la joie. Ce n'est pas à cause de votre tristesse, mais c'est parce que cette tristesse a changé votre cœur. La repentance opère une transformation au fond du cœur. Alors l'apparence peut avoir les yeux gonflés de larmes, des soupirs, une sensation d'étreinte dans mon cœur. Je peux être mal en étant dans un combat, mais l'instant d'après, la joie est possible. Alléluia. Cette tristesse, il est toujours question de cette tristesse, et on n'aime pas être triste. Mais il y a des tristesses salutaires. Il est dit encore, et Paul dit, elle a plu à Dieu, et ainsi nous ne vous avons fait aucun mal. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés, et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mon ami, il y a une tristesse que tu dois subir et vivre et choisir de traverser que tu ne regretteras jamais. Premièrement, pour celui qui n'a pas fait la paix avec Jésus, parce que ça va sauver son âme. Mais chrétien, il y a aussi cette tristesse-là qui va t'amener à rectifier la trajectoire et tu vas rentrer dans les plans parfaits du Seigneur. Et l'apaisement, la joie au travers de l'épreuve, au travers de la sécheresse, nous a dit cet arbre. Il ne s'inquiète pas. Pourquoi ? Parce qu'il porte un fruit. Et le premier fruit du chrétien, c'est celui de la repentance. La tristesse va précéder la repentance. Le Saint-Esprit va venir me communiquer les sentiments de Dieu sur ma situation. Quand tu es en autodestruction, quand face au miroir tu te détestes, quand tu as des pensées noires, quand tu as de mauvaises pensées envers ton propre frère, ta propre sœur, quand tu fais des distinctions d'amour entre ceux que j'aime bien parler et ceux à qui je ne vais jamais saluer, même qui fréquentent le même lieu de culte, le Saint-Esprit, normalement, te communique les sentiments de Dieu et une tristesse s'installe. Mon frère, ma sœur, si tu n'as jamais ressenti cette tristesse, soit c'est que tu n'es pas né de nouveau et tu as besoin de vivre la nouvelle naissance, soit tu as tellement étouffé cette voix que tu ne l'entends plus. Il y a une tristesse, mes amis, qu'on ne regrette jamais. C'est celle que Dieu nous communique et qui nous amène à la repentance. Et Paul dit, il ne s'arrête pas juste à la repentance. « Ah non, je suis une mauvaise personne, il faut que je change, Seigneur, comment je vais faire ?» Et puis on est là dans ce remords-là. Non, Dieu, ce n'est pas une finalité la repentance, c'est juste l'accès à un demi-tour, à cette conversion. Dans certains textes bibliques, la repentance et conversion, c'est le même mot. Imaginez la pensée de Dieu. Il ne supporte pas qu'il entende des gens dire « je suis converti » sans être passé par la repentance, sans avoir demandé pardon pour ses péchés, sans avoir pris des décisions de retrancher les choses de leur vie pour produire le fruit de la repentance. Nous avons besoin de prendre des décisions, pas sous le coup de l'émotion, pas sous le coup d'un message punchy un dimanche matin en ce 16 mars. On n'est pas là dans la réaction émotionnelle, on est là pour vivre des choses spirituelles. Et j'aimerais vraiment dire, faire la distinction entre ce qu'on appelle la tristesse de Dieu et la culpabilité. L'homme ne sait pas faire la différence. Pourtant, elle est très simple. La tristesse de Dieu va m'amener à dépendre de lui et à supplier son aide et à m'offrir la joie et la paix. La culpabilité, elle fait quoi ? Exactement l'inverse. Elle m'éloigne de Dieu, je m'apitoie sur mon sort, je m'éloigne de l'Église, de la parole, des prières, un cercle vicieux. La culpabilité est à bannir dans nos systèmes de pensée. La culpabilité, c'est l'arme de l'accusateur des frères. Le diable veut nous culpabiliser et nous tenir dans la culpabilité. Et ce message n'est pas un message culpabilisant, il est un message qui revient restaurer la vérité sur ce qu'est la repentance. La repentance, ce fruit de l'arbre qui tire ses racines vers les courants d'eau, de cet arbre qui demeure dans la présence, de cet arbre qui, comme cet homme, se nourrit de la parole. C'est une véritable repentance qui passe par la tristesse, qui amène au salut. Alléluia! Non, la tristesse de Dieu n'est pas de l'apitoiement sur notre sort. Oui, je sais que je suis un pécheur, ah Seigneur, d'une fausse humilité, gardant le contrôle de notre vie. J'ai entendu des gens dire, on est tous pécheurs, je ne suis pas un bon chrétien, et puis ne jamais vouloir corriger leur trajectoire. Fausse humilité. Je dis dans sa réciproque, orgueil. Quand nous gérons et nous tenons les rênes de notre vie, dans une fausse humilité, « Ah Seigneur, reviens à mon secours !» Sans jamais laisser le Saint-Esprit donner raison à nos choix, nous résistons, nous nous opposons. Et la tristesse que Dieu voudrait nous communiquer se transforme en culpabilité, en apitoiement, en orgueil. L'isolement, puis la séparation. C'est terrible, hein ? Si proche du but. Et parce que nous résistons, nous tenons les rênes, nous refusons de produire ce fruit de la repentance, nous nous éloignons. Et la finalité, le salaire du péché, c'est la mort. La repentance n'est pas un sentiment. Pierre associe la repentance au repos et au rafraîchissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans Actes 3, versets 19 à 20, il dit « Repentez-vous donc !» Ah, mais encore ce mot-là. Oui, toute la matinée, vous allez l'entendre. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Si tu te repens ce matin, tes péchés sont effacés. C'est une promesse de Dieu. Si tu te repens devant celui qui ôte les péchés du monde, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, il enlève la charge, le poids et te rafraîchit. Une autre traduction parle d'un repos, de la paix. Jésus l'a dit, je vais vous laisser ma paix, ne vous inquiétez pas, je vous donne ma paix. Jésus va souligner la joie de la repentance. Rafraîchissement, paix, joie. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. À la lecture de ce message, on pourrait dire qu'il y en a qui doivent être repentants et d'autres non. On a tous cette première lecture. Si on pousse un peu plus loin cette analyse de cette parabole, Jésus a voulu dire tous ceux qui ne se sentent pas dans le besoin de repentance, tous ceux qui ne souhaitent pas se repentir. Pas qu'ils n'ont pas besoin. On a tous besoin de se repentir. Est-ce que ces 99 brebis avaient besoin de se repentir? Bien sûr que oui. Mais physiquement, elles n'avaient pas créé cette séparation. Mais dans leur cœur, Jésus va les laisser, dans un autre évangile, il est question de laisser dans le lieu aride. Le temps de l'épreuve pour nous amener à la repentance. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mon frère, ma sœur. Mais on a tous besoin de venir à Jésus simplement. Alors, repentance, on va le dire encore 200 fois de plus. Qu'est-ce que la repentance ? La repentance dans la Bible n'est pas seulement un sentiment de remords. On le voit, des gens être torturés dans leur esprit. On voit Judas, par exemple, être plein de remords. S'est-il repenti ? Non, il est allé se suicider. On voit ce jeune homme, face à ce choix que Jésus lui donne, être triste. Mais il prendra la destination opposée de Jésus. Pourquoi ? Parce que ses richesses, celles de la terre, il n'a pas voulu les confier au Seigneur. La repentance, donc, dans la Bible, n'est pas seulement un sentiment de remords, mais une transformation profonde qui affecte la pensée, l'attitude et le comportement. C'est un mouvement vers Dieu qui implique l'abandon du péché et l'adoption d'une nouvelle manière de vivre. En somme, la repentance authentique est un changement total d'orientation de vie qui conduit à une vie en accord avec la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que dans tous les choix de ta vie, tu es en accord parfait avec la volonté de Dieu ? Avons-nous besoin de nous repentir ce matin ? Au moins de cela. On sait que nous ne sommes pas toujours en accord avec la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu veut que par notre métanoïa, notre repentance, c'est le mot, qui nous amène à vivre une transformation, c'est la même racine que métamorphose, voilà, et que ce processus que va vivre par exemple la chenille, qui va devenir dans un cocon, puis après le joli papillon, il y a besoin de cette transformation, de cette mort à elle-même. Cette chenille est comme dans le sommeil, dans ce cocon-là, elle ne fait rien, elle ne produit rien, elle subit sa transformation. Le Seigneur voudrait que nous puissions être de jolis papillons. Les jeunes hier, je leur ai parlé de suricates, aujourd'hui je parle de papillons. Nous avons besoin de cette métanoïa. Le repentir, ce n'est pas demander pardon. La repentance, se repentir, ce n'est pas demander pardon. Se repentir, c'est demander pardon et produire un acte qui va en accord avec ma parole. C'est facile de dire pardon Seigneur pour ça, sans que rien ne change. Pour juste apaiser notre conscience. Seigneur, je t'ai demandé pardon, c'est bon. Oui, mais qu'as-tu mis en acte pour que les choses changent ? Pour que par exemple ce non-pardon que tu n'arrives pas à offrir, verbaliser, envers quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ta propre famille spirituelle. As-tu mis des mots sur le pardon ? Seigneur, je te demande pardon, je n'arrive pas à pardonner, mais je décide aujourd'hui de pardonner. Es-tu allé voir ton frère et ta sœur pour pardonner ? Vous voyez, il y a une différence. Et nous avons arrêté le mot se repentir et la repentance à juste demander pardon. Non, je crois que la repentance, oui, va créer en nous une tristesse de Dieu qui va m'amener à dépendre du pardon de Dieu pour vivre en nouveauté de vie, dans un changement, une transformation. La Bible le dit, Jésus le dira dans une énigme parfaite qu'on ne met pas d'un vin nouveau dans de vieilles outres. Je vous laisserai méditer sur cette parabole. Sinon, l'outre ancienne, ce vieux contenant que je peux être par ma chair, va exploser. La finalité, c'est que la nouvelle vie de Jésus doit habiter dans un corps régénéré, dans des pensées régénérées, dans un cœur régénéré. Alors, à cette question, je pense qu'on a tous la réponse depuis tout à l'heure, est-ce qu'un chrétien a besoin de se repentir ? Pour son salut ? Non. Le salut est acquis à la croix une fois pour toutes. Alléluia ! Nous avons demandé pardon à Jésus-Christ et il nous a sauvés. Alléluia ! Un enfant né de nouveau, passé par la véritable repentance biblique, il est en paix, il sait où est inscrit son nom, dans le livre de vie, alléluia. Nous n'avons pas à demander pardon pour notre salut si tu es né de nouveau. Tu as besoin de demander pardon pour les fruits que tu produirais qui ne seraient pas au goût du Seigneur. Pour les fruits de l'orgueil, de l'amour de ce monde, des péchés cachés, du manque d'amour et de la tiédeur spirituelle. Nous avons besoin de nous repentir pour les fruits qui ne seraient pas bons. Jésus a dit, il a la hache, je ne sais pas si vous imaginez l'image, j'ai Jésus avec une hache, je suis un arbre, il a placé à ma racine sa hache et dit, est-ce que tu vas produire de bons fruits ? Intimidant peut-être. Ben, la parole de Dieu, elle agit comme ça, et je vous l'ai dit la semaine dernière, coup de bêche peut-être, coup de hache, je ne l'espère pas. La bêche va mener à fertiliser mon cœur par la parole. La hache va me retrancher, me séparer. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où est la hache de Jésus sur ta vie. J'espère pas à la racine, parce qu'après, il n'y a qu'un geste à faire. J'espère vraiment pas. Mais nous avons besoin de nous repentir. Si tu peux m'afficher, Chantal, c'est la liste que j'ai mise juste après, de cet orgueil tellement naturel. L'orgueil, ce n'est pas forcément dire « je suis le meilleur ». L'orgueil le plus sournois du chrétien, c'est de décider à la place de Dieu. L'amour de ce monde, ses séductions, ses priorités qui ne sont pas celles que Dieu voudrait pour ma vie. Ces péchés cachés que j'enfouis, que j'y arriverai par mes propres forces, qui va rejoindre l'orgueil aussi. Le manque d'amour, le fait de gérer, de maîtriser qui je vais aimer, alors que Dieu m'invite à élargir l'espace de ma tente. Et la tiédeur spirituelle. Nous avons besoin de demander pardon au moins pour ces choses-là. Je ne sais pas ce que le Seigneur met en relief dans ton cœur, mais sache qu'après, tant de rafraîchissement, de paix, de joie sur ta vie. Et peut-être c'est juste ça le problème dans ta vie spirituelle aujourd'hui. C'est que tu n'es pas vraiment repentant pour des sujets que Dieu a révélés dans ton cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fois le juste tombe, et bien Jésus l'achève à terre. C'est ça que nous lisons dans la parole. C'est ça que nous sommes capables de produire les uns envers les autres. Quand un juste tombe, quand quelqu'un s'est trompé, savons-nous encore tendre la main pour le relever ? Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Cette fois le juste tombe, il se relève. Celui qui est repentant, celui qui a été justifié par la grâce de Dieu, il a à cœur toujours de se relever. Mon frère, ma sœur, je suis un pécheur sauvé par grâce et je tombe encore. Et je tombe parfaitement cette fois, c'est le chiffre parfait. Je tombe dans l'accomplissement parfait de la chute, ça m'arrive. Mais à chaque fois, je veux me relever. À chaque fois, je veux dépendre de Dieu. Le cœur repentant, il sait vers qui il trouve le secours. Il trouve le secours de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le psaume 37 nous amène à aller plus loin dans ce juste qui tombe. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. Ça, c'est la repentance. Notre main dans la sienne. Et quand je tombe, il me relève. Parce que je lui demande de m'appuyer sur lui. Oh, la repentance, elle est bonne, mon frère, ma sœur, elle est salutaire pour notre éternité. Nous avons besoin d'examiner nos cœurs, de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis sur tel domaine, afin que le Seigneur me relève lorsque j'ai chuté. Quand je retiens, quand je médite, quand je pense mal, est-ce que je suis repentant ? Vous savez qu'il y a des obstacles à la repentance. Parce que d'avoir ma main dans la main du Seigneur, c'est une chose. Mais que jamais je ne sois perméable au Saint-Esprit. Jésus le dira en parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra, il va révéler les choses et t'amener à considérer que ça, c'est la vérité. Je ne sais pas si le Seigneur l'a déjà fait dans ton cœur, si au moment où je parle, il est encore en train de le faire, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre. Convaincre ce monde et ma vie en ce qui concerne le péché, la vraie définition du péché, pas celle que moi j'essaye de diluer pour apaiser ma conscience. En concernant la justice, tout ce qui plaît à Dieu, et puis concernant le jugement final. Parce qu'à un moment, Dieu examinera nos cœurs et il examinera nos œuvres. Nous avons besoin, au nom de ne pas avoir une nuque raide, ni un cœur dur. Ni même encore, le deuxième piège, c'est se croire juste. Dans Matthieu 9, il est dit ceci, hein, vous l'avez devant vous, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le Seigneur veut nous amener à révéler nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous amener à la repentance. Alléluia. Je ne sais pas quel est l'état de ton couple, je ne sais pas ta relation avec tes enfants, mais je crois qu'on a besoin, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Alors peut-être qu'on peut se poser la question, mais comment on s'y prend ? Comment on fait pour se repentir ce matin ? Comment je dois faire ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? Et c'est là ma conclusion. Nous avons besoin de réaliser la bonté, la patience et la générosité de Dieu. Romains 2, verset 4, nous pose ces questions. Un, deux. Ah, c'est bon, c'est revenu. Paul pose ces questions. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse ? Ou bien méprises-tu la bonté de la patience de Dieu ? Et la patience de Dieu ? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés ? Entre parenthèses, se repentir. N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à te repentir, changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion ? Paul s'adresse aux Romains, l'Église de Rome. Comment se repentir ? On a besoin que de réaliser la bonté de Dieu, sa patience, sa générosité, et de plier le genou sciemment. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia ! Nous avons besoin, et je le dis premièrement pour ma vie, sans pointer du doigt quiconque, mais en m'examinant moi-même, j'ai besoin de me repentir devant Dieu. Seigneur, je veux plier le genou devant toi. Combien de fois j'ai repris le volant de ma vie ? Combien de fois je n'ai pas obéi à ton esprit quand il me pressait ? Combien de fois je n'ai pas demandé pardon alors que ta tristesse s'installait dans mon cœur ? Nous avons besoin, frères et sœurs. J'espère que vous en êtes convaincus et que le Saint-Esprit fait son travail dans nos cœurs. Parce que face à la repentance, nous sommes tous concernés. Peut-être ce matin, quelqu'un va se repentir pour la première fois et nous pourrons l'appeler frère ou sœur. Il va demander pardon pour ses péchés et ses péchés vont être effacés. Jésus va inscrire son nom dans le livre de vie. Tu pourras être assuré que si la mort vient se précipiter, tu te réveilleras avec Jésus-Christ. Alléluia ! Mais on est tous concernés par la repentance. La tristesse de Dieu veut agir dans le cœur du chrétien pendant un certain temps, l'espace d'un instant. Il suffit d'accepter l'espace d'un instant, cette tristesse de Dieu qui vient réformer mes voies pour m'amener à la joie, la paix, l'assurance. Oh Seigneur, un temps de rafraîchissement. J'aimerais que nous puissions vivre, j'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Nous allons vivre un temps de rafraîchissement. On ne va pas prendre la Sainte Cène de suite. On va vivre d'abord un temps de rafraîchissement, de repos, de paix et de joie. On va vivre l'action de la grâce de Dieu dans nos vies. On va chanter les merveilles de Dieu. On va chanter le nom de Dieu. On va venir se placer dans sa présence ensemble. Et qu'on puisse vivre ce rafraîchissement. Est-ce que ça t'intéresse, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es en terre aride en ce moment ? Ça tombe bien, un temps de rafraîchissement vient. Un temps de paix, de repos, un temps de grâce, un temps de joie. Est-ce qu'on pourrait le vivre tous ensemble ? Amen. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble. Jésus, oh Seigneur, Jésus. Nous l'avons vu la semaine dernière, ta parole est comme une bêche venant remuer la croûte de mon cœur indurée. Seigneur Dieu, viens. Viens encore par ta parole faire ce sillon. Viens, Saint-Esprit, nous amener l'espace d'un instant une tristesse dans nos cœurs. Et je sais que là, en ce moment, alors que je prie, Seigneur, il y a des cœurs qui sont torturés. Il y a des frères et sœurs qui sont en souffrance dans leur cœur. Parce que ton esprit les presse d'un côté et de l'autre, leur chair résonne. Jésus, je voudrais te prier pour que la vérité triomphe, pour que l'Esprit triomphe, pour que l'Esprit Saint nous attriste l'espace d'un instant, mais que vienne l'instant d'après, un temps de rafraîchissement, un temps de paix, un temps de repos. Un temps de grâce, un temps de joie. Jésus, je voudrais m'adresser à celui qui est là, comme torturé dans son cœur, qui lutte. Cède, cède devant la présence, dans la présence de Dieu. Cède à Jésus-Christ. Plie le genou maintenant, alors que tu combats dans ton cœur par fierté peut-être. Par revendication de souffrance, cède dans la présence du Saint-Esprit. Cède maintenant. Et si c'est trop fort pour toi, si tu as besoin de la prière, je vais t'inviter juste, et alors que nos yeux sont fermés, à lever la main. J'arrive pas à lâcher prise. Lève ta main simplement. Tu pointes le ciel. D'où te vient le secours? Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Jésus te voit. Il y a des mains qui se lèvent. Et il y a des victoires qui sont prises. Parce que pendant l'espace d'un instant, ton cœur va être attristé. Laisse ton cœur s'attrister par la tristesse de Dieu. Elle t'amène à la repentance. Peut-être que dans ton cœur, là vient se formuler des mots. Laisse-les jaillir de ta bouche. Peut-être que c'est le mot « pardon Jésus ». Cette phrase-là débute dans ta bouche, dans ton cœur. Laisse jaillir ce pardon. Demande de l'aide au Seigneur. Alors que le Saint-Esprit te presse, alors que tu as pris courage en levant la main vers le ciel, le Seigneur te voit et t'exauce. L'espace d'un instant, la tristesse t'envahit. L'espace d'un instant, la plaie purulente vient être percée. La douleur est là. Mais dans ce temps de rafraîchissement, dans ce temps de grâce, dans ce temps de louange que nous allons vivre, le Seigneur va prendre soin de ton cœur meurtri. Il va te libérer. Tout esprit mauvais, toute oppression démoniaque va quitter ton quotidien. Toute culpabilité va être chassée de tes pensées. Le Seigneur te donne un temps de rafraîchissement. Demande-lui, prie, reconnais sa majesté, qu'il est le roi. Chantons ensemble. Alléluia.